Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Là-haut sur la colline.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Cube Radio. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, la libérale Marie Montpetit revient sur la conférence de presse alarmiste, pour reprendre ses mots, de François Legault mardi. Elle réclame plus de transparence de la part du gouvernement, qu'il nous présente les analyses épidémiologiques qui le conduisent à s'inquiéter autant, dit-elle. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio avec nous.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important.
Bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Là, la question que je vais te poser est simple. Comment on peut faire face aux manifestations du mouvement anti-masque qui se multiplient, puis en plus qui prennent de l'ampleur? Et on a l'impression là, que le gouvernement est pris avec cette question-là. Il semble marcher sur des œufs.
Exactement. On a vu ce matin que le premier ministre François Legault est en réflexion et se demande comment intervenir sans jeter de l'huile sur le feu, sans galvaniser le mouvement anti-masque. M. Legault a commencé en disant, écoutez, premièrement, c'est pas simple d'un point de vue légal. On s'entend que le droit de manifester est un droit fondamental. Les personnes veulent vraiment brimer ça. D'un point de vue aussi pratico-pratique, comment on fait pour envoyer la police? Il n'a pas souligné, mais je te lance une idée quand même. Si on arrête les gens, on fait quoi? On les met dans un panier à salade. Ils sont 15, attention un sur l'autre. On n'est pas plus avancé.
Plusieurs paniers à salade.
Exact. Mais donc, c'est pas simple quand même d'intervenir. Et il a pris aussi l'exemple du printemps érable 2012, où plus on réprimait, plus la contestation s'envenimait. M. Legault a dit, c'est une phrase que j'aime beaucoup, il a dit, est-ce qu'on veut faire des martyrs, entre guillemets,
oui,
de ces personnes-là?
Oui, ça m'a frappé aussi.
Et c'est vrai aussi. Est-ce qu'on veut justement choquer les gens qui sont déjà anti-masques, qui manifestent, il faut le dire, de façon très, très pacifique? Le seul problème, c'est que pour l'instant, bien évidemment, ils ne portent pas de masque dans les manifestations.
Et c'est en contravention totale avec toutes les règles de santé publique actuelles, là.
Disons que, pour l'instant, le gouvernement tolère, en fait, ce type de rassemblement.
Manifestement, oui.
Exactement. Ça m'a fait penser à une petite citation, je pense que tu vas aimer, de Catherine de Russie.
Ah oui?
À Diderot, qui disait « Il est plus facile d'écrire sur du papier qui supporte tout que sur la peau humaine qui ne supporte rien. » Et c'est un peu le dilemme qu'ont les politiciens, les élus présentement.
On a vraiment un correspondant très cultivé ici.
Mais c'est quand même un peu le dilemme que les élus ont présentement, de dire, écoutez, si j'applique seulement la science, ce que la santé publique recommande, est-ce que je ne vais pas créer un problème plus grand que si je vais en tâtant le pouls de la population puis en disant, les bars, pour l'instant, on va les laisser ouverts, on va laisser les gens manifester parce qu'on ne veut pas envenimer la situation. Donc, M. Legault a tout un dilemme sur les bras.
Oui.
Et il dit que ce n'est pas exclu d'interdire la manifestation ou des encadrer ou des limiter, mais à court terme, il n'y a rien de prévu en ce sens-là.
Parce que ce matin, il y avait quand même Pascal Bérubé du Parti québécois. Et hier, ici, sur nos ondes à Cube, Pascal Bérubé disait qu'il faut les encadrer. Non seulement, il faudrait songer à les interdire. Il est allé très loin. Puis ce matin, c'est ça, il a redit ça, il a remis, quand même, il a mis un peu d'eau dans son vin en disant qu'il fallait y songer, puis il y avait des risques, mais
ce que j'ai aimé
c'est
hier,
tout, comme tu dis, c'est tout un dilemme.
Ce que j'ai aimé hier aussi, c'est la citation de M. Legault qui dit, peut-être qu'on pourrait les obliger à porter des masques. Alors là, on aurait des manifestations anti-masques avec des gens masqués dans la rue.
C'est ça qui est très difficile, c'est inextricable, je trouve, cette situation. Puis en même temps, ça peut être un foyer de contamination, là.
Évidemment.
Donc, il y a une urgence à agir en même temps. Quand on les voit, tout le monde, je les ai vus devant le Parlement hier, ils étaient très nombreux. Puis...
Ils étaient 1000 ici, ils étaient plusieurs milliers à Montréal il y a 2 semaines. Et évidemment, ces gens-là sont peut-être pas ceux qui vont aller se faire tester le plus rapidement. Donc, le Québec dit, Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de foyer d'éclosion ou de contamination dans ces manifestations-là. Mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment.
Mais non, parce comment peut-il affirmer ça, le premier ministre?
Ils ne peuvent pas répondre aux enquêtes épidémiologiques de la santé publique. On a croisé tantôt le docteur de la santé, le directeur plutôt, de la santé publique, docteur Arruda, qui disait oui, en effet, c'est sûr qu'il y a des moyens quand même de retracer, savoir si les gens étaient dans les manifestations. Mm-hmm. Mais c'est quand même pas évident qu'ils vont être les premiers à venir avouer que c'était une manif anti-masque.
L'autre dilemme, l'autre problème du premier ministre et du gouvernement et de la santé publique et je dirais de la gestion de la pandémie en général, c'est que c'est dans les maisons, c'est dans les parties privées que se répand la COVID. Est-ce qu'on peut entrer dans les maisons comme ça puis arrêter les gens?
Exactement. Encore là, une question de droit garanti dans un État démocratique. La police ne peut pas rentrer chez vous et perquisitionner ou venir regarder qui est dans votre maison sans un mandat d'un juge. Donc, oui, le décret prévoit qu'on ne peut pas être plus que 10 personnes de 3 adresses différentes une même maison. Mais la police ne peut pas pour l'instant venir vérifier. Donc, M. Legault a dit, écoutez, présentement, en discussion entre la sécurité publique et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour voir est-ce qu'il y a une poignée, est-ce qu'il y a une façon de faire pour permettre justement aux policiers d'entrer et d'émettre des constats. Si jamais il y a plus que 10 personnes chez vous, si jamais il y a des parties à 17, comme on a vu dans certains cas récemment.
Des épluchettes de blé d'Inde.
Aussi. Aussi.
Il y avait toutes sortes d'exemples très truculents hier, je trouve, de la part de Christian Dubé. Hein?
Exact. Je pense pas qu'il va recommencer, par exemple, après avoir parlé d'une coiffeuse qui se servait infectée. Là. C'est une peau de banane qui s'est lancée lui-même.
S'il recommence, là, il faut qu'il soit très précis. Hein? Il faut qu'il vérifie les faits. Comme un bon journaliste, comme un bon reporter.
Parce que juste pour rappeler aux auditeurs, donc, la coiffeuse, elle ne se servait pas infectée. Oui. Et évidemment, M. Dubé a dû se rétracter rapidement.
Parce que lui a affirmé. Elle le savait, puis elle s'est quand même promenée à travers 2-3 maisons de retraite.
Exactement.
Le système de couleurs maintenant, qui est pas mal imprécis, hein, le système vert, jaune, orange, rouge, Marois Risky en a même conçu un qui ajoutait un mauve où on arrêtait tout. Ce système de couleurs-là, il est imprécis, on le sait, mais il paraît qu'il y a des précisions cachées.
Bien, c'est un peu particulier parce que oui, en effet, quand M. Dubé, le ministre de la Santé, a présenté ce système-là la semaine passée, il a dit, bon, écoutez, là, les précisions vont venir bientôt avec Mme Guilbeault, la Sécurité publique. Finalement, on n'a jamais eu vraiment plus de précisions que ça. Donc, on ne sait pas. Il y a plusieurs régions, on sait, là, qui pourraient passer en zone orange bientôt. Mais on ne sait pas ça signifie quoi précisément. M. Dubé a donné quelques exemples hier, mais vraiment rien de précis. Et là, il y a un document qui circule en ligne, qui a été mis en ligne par Patrick Derry, qui est un citoyen, analyste en politique publique. Et selon M. Derry, ça a été présenté à la FMSQ, donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec, lundi dernier. Et dans ce document-là, on est extrêmement précis. J'en lis quelques bouts. On dit, si on passe en zone orange, donc les rassemblements privés tomberaient à 6 personnes. Les rassemblements organisés, un maximum de 50 personnes. Il y a d'autres point aussi, mais un des plus importants, je trouve, le couvre-visage en tout temps serait imposé en tout temps dans les salles de spectacle, les marchés extérieurs, etc. Donc, on a questionné M. Legault là-dessus. Ce qu'il nous dit, M. Legault, c'est que ça, c'est un document de travail qui date d'avant la présentation faite par M. Dubé la semaine dernière. Sauf que, comme je viens de le dire, selon Patrick Derry, selon les images qu'on peut voir du document aussi, ça a été présenté devant les membres de médecins spécialistes, la Fédération des médecins spécialistes, lundi dernier, était extrêmement à jour. Donc, on est en train de faire des vérifications avec le cabinet du PM et avec la FMSQ pour voir ce qu'il en est. C'est dommage parce que ça donne l'impression aux gens qu'on nous cache des choses, qu'on ne veut pas nous dire ce qui va arriver si jamais une région passe en zone orange. Ce que M. Legault a expliqué encore aussi ce matin, c'est que, en fait, les mesures vont être appliquées différemment selon les circonstances précises dans cette région-là. Donc, par exemple, si le problème, c'est une éclosion dans les bars, peut-être qu'on va juste fermer les bars. Si, bon, évidemment, on sait que ça peut fonctionner par sous-région aussi.
Il a parlé de marge de manœuvre.
Hein? Exactement.
Il faut que le gestionnaire se donne une marge de manœuvre.
Exact, puis faire preuve de jugement. Donc, mais encore là, si les conséquences sont X et Y pour différentes régions, ça peut créer du mécontentement dans la population.
Oui. Bien, écoute, je pense que le résumé de cette chronique, c'est pas facile de gérer une pandémie.
Tout à fait.
c'est des dilemmes sur dilemmes. c'est des difficultés. Quand on se met à la place des décideurs, on se dit que ça doit pas être simple. Vraiment, il y a des sujets beaucoup plus simples à gérer. Merci beaucoup, Patrick Bellerose.
Ça fait plaisir.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Là-haut sur la colline.
La politique autrement dit. Cube Radio.
On est à l'orée d'une deuxième vague de la COVID-19 et on a eu droit mardi à une conférence de presse où le premier ministre Legault a parlé de situations inquiétantes et critiques. On en parle avec celle qui, justement, en raison de la COVID-19, est obligée de poser la première question à la période de questions. C'est Marie Montpetit, députée de Crémazie. Maurice Richard, bonjour.
Bonjour, M. Robitaille. Oui, de Maurice Richard, effectivement.
La première question, c'est pas trop difficile?
C'est effectivement. Hier, c'était l'ouverture de la session et notre chef, Dominique Anglade, comme beaucoup de parents, s'est retrouvé avec ses enfants, avec des petits nez qui coulent et des toux. Et c'est la saison du rhume, hein? Donc, elle a dû, ils sont tous en famille, aller passer le test.
Vous n'avez pas de nouvelles, hein? On ne sait pas si...
Oui, on vient d'avoir des nouvelles, bonnes nouvelles. Tout le monde et tous les tests sont négatifs. Donc, Dominique va être de retour à l'Assemblée demain.
Bon.
Donc, mais ça a été un grand plaisir d'ouvrir la session parlementaire hier. Voilà.
Et là, ce matin, en point de presse, vous demandiez à voir les analyses épidémiologiques qui ont pu conduire le premier ministre à faire une conférence de presse qu'on a qualifiée d'alarmiste, que vous avez qualifiée d'alarmiste.
Oui, bien, je ne sais pas si alarmiste, là, je veux juste être certaine de je sais que vous êtes très fort en français en plus de ça, puis je me dis le choix des mots alarmiste, je ne sais pas si j'ai dit ce mot-là, mais si je l'ai dit, c'est pas dans le sens de alarmer inutilement la population. C'est juste qu'il a utilisé un ton qui était très grave, très solennel. Il a dit qu'il était inquiet. Il a vraiment livré une sérieuse mise en garde. Il a dit que la situation, elle était critique, que si la situation continuait d'évoluer à ce rythme-là, il y aurait des conséquences graves, qu'il y aurait de nouveau des morts. Donc, c'est très inquiétant, ce qu'il a dit hier. Mais on n'a pas le portrait de ce qui s'en vient. Donc, ce que j'ai demandé, effectivement, et que je continue de demander, on se rappellera qu'au printemps, il y avait une publication qui était faite sur les projections, sur les différents scénarios, en fonction de la charge virale, en fonction des foyers d'éclosion par région, en fonction du nombre de cas journaliers. Donc, il faisait une modélisation qui s'était avérée assez précise sur les différents scénarios au cours des prochaines semaines. Je souhaite que le premier ministre dépose ça. Là, je comprends. Il aurait dit, suite à notre demande, qu'il n'avait pas ce genre de scénario, qu'il n'en avait pas fait la demande depuis le mois de juin. Donc là, ça soulève un paquet d'autres questions.
Oui, est-ce que c'était pas étonnant de voir qu'il n'y a pas de scénario mis à jour depuis le mois de juin? J'ai entendu ça à la conférence de presse du premier ministre aussi. J'étais vraiment étonné. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un suivi continuel ou un ajustement continuel de tous ces scénarios?
Moi, je peux juste étonner. Je suis
choquée.
Je suis inquiète.
Oui.
Ben, je suis choquée, je suis inquiète. Comment ils gouvernent? Mm-hmm. Et sur quoi ils se basent pour prendre ces décisions? Il a dit hier, il a dit la situation est critique. Ils n'ont pas de boule de cristal, ils n'ont pas de devin. Donc, la seule façon de voir ce qui s'en vient, normalement, c'est des modélisations, c'est des données épidémiologiques. Là, il dit qu'il n'y en a pas entre les mains. Donc, je sais pas, tu sais, il ouvre sa fenêtre, il regarde dehors, puis il se dit, ça va bien, le vent va à la gauche, le vent va à la droite. Je comprends pas comment il prend ses décisions à l'heure actuelle. C'est hyper préoccupant. Qu'il ne l'ait pas demandé, je trouve ça très irresponsable. J'imagine qu'il y aura l'occasion de préciser la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Mais en plus de ça, depuis le mois de mars, toutes ces modélisations-là, elles se sont précisées encore plus. T'sais, au printemps, elles étaient déjà assez précises. Mais on était dans un virus qu'on connaissait pas, on savait pas comment il allait progresser. Mais là, 6 mois plus tard, les épidémiologistes sont encore plus précis qu'ils étaient. Donc, si on veut avoir une lecture juste de comment va évoluer la situation, ben c'est sûr qu'il faut avoir ces données-là. C'est la première chose qu'il aurait demandé comme premier ministre. Puis c'est pas comme s'il savait pas qu'il y avait une deuxième vague qui s'en venait. Là. On le savait tous.
Donc, si vous montrez les analyses épidémiologiques, ça serait celle de juin dernier, si...
Ben, les dernières qui sont publiques, c'est celles du mois de juin.
Mais il dit qu'il n'y a rien de plus à jour.
Ben, parce qu'il ne les a pas demandé.
Parce qu'il doit y en avoir.
Il les demande, Je suis surprise, puis je vais avoir un échange avec le ministre de la Santé tout à l'heure qui va pouvoir nous préciser ça. Mais j'ai de la difficulté à comprendre comment, dans un contexte de pandémie avec autant d'experts en santé publique puis d'épidémiologistes, à l'heure actuelle, ils travaillent pas avec ce genre de projection-là. Donc, déjà, on va aller clarifier c'est quoi qu'ils ont entre les mains, mais après ça, s'ils n'ont pas fait la demande, c'est une erreur monumentale.
Est-ce que vous faites confiance au premier ministre? Parce que ce matin, je vous écoutais, là, puis vous disiez, bon, c'est correct, il nous dit que c'est alarmant, mais en même temps, il faut absolument voir des données. On dirait que vous lui faites pas confiance.
Mais je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Mon propos pour répondre simplement à votre question, là, je pense que le gouvernement, il faut qu'il se ressaisisse. Là, depuis ça part vraiment n'importe comment depuis plusieurs jours. Là, vous l'avez vu avec les tableaux de codes de couleurs. Ça fait une semaine qu'on demande de savoir ça veut dire quoi pour les citoyens passer de jaune à orange.
Ouais.
Il y a des tableaux qui sont sortis via sur Twitter, par une présentation de la Fédération des médecins spécialistes. Le ministre en va dire que les tableaux, finalement, c'est des vieilles versions, donc on sait toujours pas. Donc, ça crée de la confusion. Ça crée beaucoup de confusion, puis c'est ça qu'on reproche au gouvernement depuis le début de la pandémie. Mm-hmm. C'est que ces messages sont pas clairs.
Mais c'est pas de sa faute, ça. C'est, je veux dire, si Patrick Derry a obtenu, celui qui a dévoilé les codes de couleur, a obtenu ces documents-là puis les a dévoilés, c'est pas de la faute du gouvernement nécessairement.
Mais la faute du gouvernement, c'est quand il a déposé son code de couleur mardi dernier, pourquoi il a pas déposé le détail qui vient avec? La France le fait, il y a d'autres régions qui utilisent exactement à peu de choses près les mêmes codes de couleur depuis le printemps dernier. Hein,
oui, je vous ai entendu dire ça hier, que la France était plus précise. À part le taux d'infection par 100 000 habitants, ou si je ne m'abuse, là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le...
Ben, il y a certaines consignes de, par exemple, quand on est dans telle couleur de région, ben ça veut dire que les gens qui viennent d'une autre région peuvent pas y entrer, que les gens peuvent pas sortir. Donc c'est un confinement régional, je vais dire comme ça. Donc par exemple que les gens peuvent pas sortir à plus de 100 km de leur domicile, ou quand c'est en zone d'extrême foyer d'éclosion, on le voit au printemps, là, les gens peuvent sortir, mais pour aller faire des courses, par exemple, pendant une heure. On souhaite vraiment pas en venir là, mais quand on met en place un code d'alerte, là, on a l'impression que c'est vraiment des points de presse juste pour nous dire on est un petit peu plus inquiet qu'hier. On est un petit peu plus inquiet qu'hier. On est encore plus inquiet. Mais une fois qu'on a dit ça, à part inquiéter la population, ça vient pas influencer les comportements des gens.
Vous avez même dit tout à l'heure en point de presse que ça aidait pas pour ce qui est des courants conspirationnistes ou complotistes.
Dans une pandémie, il y a des principes. Dans une crise, là, il y a des principes de base. Le message, il faut qu'il soit constant, puis il faut qu'il soit cohérent, puis il faut surtout pas que le porte-parole, je vais le dire comme ça, de la crise perde sa crédibilité. Et je suis loin de moi l'idée de me faire une experte en communication de crise. Là. Vous pourrez sûrement inviter des gens qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que à force d'avoir de la confusion dans les messages, le réflexe des gens, c'est de se désengager puis de dire ben c'est un peu ce que je disais par rapport au masque. Le masque a changé. Docteur Arruda, puis la ministre à l'époque, puis le premier ministre aussi disait une journée très importante le masque. Après ça, non, il ne faut absolument pas porter le masque, c'est pas une mesure de santé publique.
Mais donc, je me demande si vous, au pouvoir, vous n'auriez pas été aussi, disons, incohérente. Parce que parce que c'était difficile aussi. Les informations sur le masque, même à l'OMS, n'étaient pas toujours cohérentes. Je veux dire, ça a évolué parce que aussi on a appris à découvrir cette bébête-là qui est la COVID-19.
J'en reviens à l'importance d'expliquer les choses. J'en reviens à l'importance d'être clair, d'être transparent. C'est le sens de la demande que j'ai fait ce matin. C'est que les Québécois ont fait des grands sacrifices depuis le printemps. D'énormes sacrifices là, d'être isolé à la maison, d'être confiné, la conciliation famille-travail. Moi, je le vois là, tous les jours comme député, là, les enjeux économiques que ça a créé, les enjeux de santé mentale que ça a créé aussi. Ça a été difficile. Il y a personne qui veut être confiné. Là. Et là, on sent avec le discours du premier ministre qu'il va retourner là, qu'il va redemander aux Québécois de refaire des sacrifices. Et c'est dans ce sens-là que...
Mais vous-même, vous avez dit ce matin que c'était vraiment étrange parce que le premier ministre nous dit que c'est alarmant, tout ça. Et tout ce qu'il propose comme mesure, c'est d'éliminer la bouffe après minuit dans les bars. Donc, c'est une espèce de solution contre les nachos, là, vous l'avez dit drôlement. Mais donc, vous-même, vous dites il est alarmant, ça devrait être plus dur. Est-ce qu'il ne devrait pas donc y avoir une sorte de reconfinement?
Non, ce que je disais, c'est qu'il faut éviter de se retrouver dans une situation comme au printemps où le gouvernement a tardé à agir.
Ouais.
Et finalement, la situation était absolument plus sous contrôle. Donc, la seule solution, c'était de confiner tout le monde. On veut éviter ça. Mais c'est pas le gouvernement, il ne peut plus dire, là, je suis en train de construire un avion en plein vol. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une pandémie.
L'avion est construit.
L'avion, il est pas mal construit. Là. La question, c'est est-ce qu'il y a un pilote
dedans.
Que le pilote, est-ce qu'il a suivi son cours est-ce qu'il a suivi sa deuxième formation? Parce que on n'est pas pris par surprise par cette deuxième vague-là. Moi, ce que je souhaiterais que le gouvernement communique, c'est, bon, en tout cas, si d'aventure, moi, je pense qu'il faut qu'il demande des projections épidémiologiques. Ça, c'est important pour savoir un peu ce qui nous tend au bout du nez. Est-ce que les gens, justement, pour que les gens puissent s'organiser aussi, est-ce que les commerces vont fermer? Est-ce que les gens vont devoir retourner? Est-ce que les écoles vont fermer? Donc, c'est la conciliation famille-travail. Je pense qu'il faut permettre aux gens de s'organiser. Mais une fois qu'on a dit ça, si on veut éviter que tout ferme du jour au lendemain, oui. Personne qui souhaite ça, moi la première, mais je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qui doivent être faites pour pas se rendre au point de bascule où on est en point de rupture puis la situation, le feu est pris à la maison.
Mais l'interdiction des nachos, c'en est une mesure intermédiaire? Vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut interdire l'alcool, pas nécessairement fermer les bars. C'est ça, hein? Si je comprends bien.
C'est c'est un peu la seule mesure qu'ils ont annoncée hier. Là. Je pense que c'est une mesure un peu d'interdire la vente de nourriture après minuit, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelques bars qui en profitaient pour continuer. Ça leur permettait de continuer de vendre de l'alcool après minuit. C'est que la réponse, elle n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de nous décrire le premier ministre. Il est en train de nous dire vraiment, c'est ça, le feu est pris à la maison.
Oui, c'est ça. C'est la maison, comme vous dites, c'est à l'intérieur des maisons. C'est ce que le premier ministre... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller dans chaque maison des Québécois.
Premièrement, comme je vous disais, on sait pas si le feu est pris à la maison. On sait pas la nature on sait pas la nature de la crise. De toute évidence, ça va pas bien. Le réseau est hyper fragilisé. On l'a vu, là, des ruptures de services à Maisonneuve-Rosemont, oui. Les soins intensifs qui débordaient à Québec cette fin de semaine. À Gatineau, ils ont fermé les soins intensifs. Les patients sont transférés à Montréal, c'est pas la porte à côté. Le réseau est vraiment pas dans une bonne posture. Les travailleurs de la santé sont à bout de souffle, sont épuisés, sont fatigués. Donc c'est sûr que c'est pas des conditions idéales, mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'être encore plus vigilant, puis d'être transparent. T'sais. En ce moment, moi ce que je veux que le gouvernement fasse, c'est qu'il nous rassure, qu'il nous dise oui, je sais où je m'en vais. Puis oui, j'ai le contrôle de la situation.
Craignez-vous, quand vous posez des questions comme ça, Marie Montpetit, d'être une alliée objective des complotistes?
Non. Je pense que j'ai toujours été avec un message clair sur l'importance de respecter respecter les consignes de santé publique.
Moi, je comprends votre message sur la transparence, la nécessité de la transparence, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient mal interpréter ça et qui disent « Ah ben oui, c'est ça, le pouvoir nous cache des choses ».
Ah, c'est pas une question de cacher. Je veux vraiment être claire là-dessus. Je prenne pas de mauvaises intentions au gouvernement pour le fait qu'il cache des choses. Mon propos, il est pas là. Ce que je dis, c'est juste qu'il doit faire un exercice de transparence. Il doit les rendre publics. Puis après ça, ce sera à lui d'expliquer, mais pourquoi ils ont ces données-là? Puis, ils nous permettent pas d'en disposer. Les gens sont pas imbéciles. Là. On n'est pas imbéciles personne. Et là, le fait de pas avoir l'information, comme je disais ce matin, ça engendre deux comportements. Soit les gens qui disent, ben finalement, je suis pas au courant de rien, donc je vais faire comme ça n'existe pas, puis je continue ma vie.
En terminant,
ça inquiète beaucoup. Là. Ça inquiète beaucoup de gens aussi.
Les gens qui sont les plus inquiets, qui manifestent aussi contre, on a vu hier devant le Parlement encore, est-ce qu'il faut les discipliner? Parce que là, manifestement, ils croient pas aux règles de la santé publique, donc ils ne les appliquent pas dans leur manif. Or, ils sont 1000. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hier, Pascal Bérubé, à mon émission, a évoqué la possibilité d'interdire ces manifs-là ou d'intervenir de façon plus musclée. Aujourd'hui, il a nuancé. Vous, qu'est-ce que vous dites?
Mais je pense qu'il faut suivre certainement la situation de très, très près. Là, c'est pas des comportements qui sont souhaitables. Là. Comme vous dites, c'est des gens qui portent pas le masque parce qu'ils sont anti-masques, qui se retrouvent dans des attroupements nombreux, qui après ça, certainement respectent pas la distanciation, certainement sont pas testés quand ils ont des symptômes parce qu'ils croient pas au virus. Donc, tu sais, ça peut devenir des agents de contamination. Donc, il faudrait pas que ça se reproduise et s'il devait y avoir des manifestations de plus nombreuses ou plus régulières, je pense que le premier ministre devra certainement être plus restrictif là-dessus. Non?
Ça veut dire plus restrictif?
Ben, il va devoir encadrer les manifestations. Il faudra voir. Là, il y en a eu une hier, là, c'est pas la première, là, mais ça devait devenir un mouvement très, très régulier. Certainement, il ne peut pas laisser aller ça puis répéter ce qu'il a dit hier, que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça, j'aimerais lui demander, comment il sait que ce n'est pas un foyer de contamination? Ils n'ont pas de données là-dessus. Les gens ne sont pas testés. Je pense pas qu'ils sont allés demander les adresses puis les noms des gens qui étaient dans la manifestation pour vérifier s'ils avaient la COVID ou pas.
Ce n'est pas le genre à se faire tester non plus.
Ben non. Donc, tu sais, déjà que le premier ministre répond non, c'est pas, tu sais, je pense qu'il faut qu'il soit préoccupé de cette situation-là et surtout qu'il soit hyper vigilant sur la progression. Puis après ça, ben il faudra qu'il ajuste ses comportements en fonction de la situation.
Merci beaucoup, Marie-Montpetit. Je vous laisse aller.
Au plaisir et sur Habitail.
Député de Maurice Richard, critique en matière de santé pour le Parti libéral. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Cube Radio.